Bonjour à vous, Amélie Perrier.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Recalée Sylvie Goulard, les eurodéputés ont voté massivement contre sa candidature à un poste de commissaire européenne. Bafoué Emmanuel Macron, dont c'était le choix. Les oppositions jubilent. La guerre fait rage dans le nord syrien. La Turquie frappe les milices kurdes et le président Erdogan menace les Européens d'un afflux de migrants massifs si son offensive est contrariée. Plus de 600 postes supprimés en Vendée. Michelin veut fermer son usine de La Roche-sur-Yon. Et un double prix Nobel de littérature, la polonaise Olga Tokarczuk et l'autrichien Peter Handke, étonné d'une telle reconnaissance tant il a fait polémique avec ses prises de position pour les Serbes surtout. Un temps agréable demain, la météo à la fin de ce journal et ensuite on vous retrouvera Fabienne donc en direct de Bayeux.
Et oui, en direct et en public du prix Bayeux Calvados Normandie, des correspondants de guerre qui vous accueillent, qui nous accueillent comme tous les ans. Alors pas forcément pour parler guerre, mais pour parler des gens dans la guerre et comment ces chaos sont couverts, sont racontés, sont vécus aussi par les civils. C'est l'occasion de témoignages forts que vous entendrez. Dans un instant, par exemple, nous sommes avec Lou Bureau qui raconte les semaines passées dans une prison turque. Gary Knight sera là aussi, c'est un photographe britannique mythique qui viendra nous parler de son métier. Puis en deuxième heure, tiens, je vous le dis déjà, nous sommes notamment avec la fiancée de Jamal Khashoggi. Elle a été très discrète jusque-là. Elle viendra nous raconter ce qu'elle vit depuis un an. Et puis on aura aussi une longue discussion au sujet du film Pour Sama qu'on est content de défendre sur France Inter. Venez nous rejoindre, on est en direct, on est en public. À tout à l'heure, Amélie.
France Inter.
C'est une humiliation inédite pour la France et pour Emmanuel Macron qui l'avait choisi. Sylvie Goulard ne sera pas commissaire européenne. Les eurodéputés ont voté contre sa candidature. 82 voix contre, seulement 29 pour et une abstention. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Notre correspondante à Bruxelles. Comment la France s'est-elle retrouvée dans une telle ornière ?
Eh bien, les temps ont changé au Parlement européen. Les consignes de vote venues d'en haut, cela ne fonctionne plus. La France affirme qu'elle s'était assurée auprès de la future présidente de la Commission que sa candidate centriste aurait le soutien de la droite et de la gauche. Mais plus de 60% des eurodéputés sont de petits nouveaux dans l'hémicycle. Des élus sans doute plus attachés à l'éthique et beaucoup plus libres. C'est très net chez les sociodémocrates où des élus allemands et nordiques notamment auraient refusé de céder aux pressions de la direction du groupe selon une source bien informée.
Et à droite, Angélique ?
Eh bien, même chose à droite, mais le lâchage de Sylvie Goulard, dans la dernière ligne droite des auditions, s'explique aussi sans doute par le ressentiment du chef de file du PPE, l'allemand Manfred Weber. Il n'aurait pas digéré de s'être vu souffler la présidence de la Commission par Ursula von der Leyen, sous l'influence du président Macron. La gourmandise française posait également problème à de nombreux élus. Sylvie Goulard aurait hérité d'un très vaste portefeuille, marché intérieur, industrie, défense, une partie du numérique et de la culture, avec le risque d'une mise en examen, la nécessité de se défendre ou pire, de devoir démissionner en toute bonne foi et sans calcul politique, un certain nombre d'eurodéputés ont estimé trop grand le risque d'affaiblir le travail des institutions.
Angélique Bouin pour les affaires européennes sur France Inter. Merci à vous. C'est donc une gifle pour Emmanuel Macron. Sa candidate est retoquée. Le président dit ne pas comprendre les raisons du rejet, évoque le ressentiment, la petitesse du vote des eurodéputés. Fermez les guillemets. En tout cas pour le PPE, la droite majoritaire au Parlement, vous l'évoquiez Angélique, il ne pouvait en être autrement, comme nous le dit l'eurodéputé François-Xavier Bellamy.
Dès le début, dès la nomination de Mme Goulard, j'avais indiqué que cette nomination suscitait une forme de gêne. Parce que qu'est-ce qui pouvait expliquer que quelqu'un qui ne pouvait pas être ministre en France soit, alors que l'enquête qui la concerne est toujours en cours, nommé à ce poste de commissaire ? Nous ne pouvons que constater que si l'on tient à cette transparence, alors le profil de Mme Goulard posait trop de questions pour pouvoir convaincre les citoyens européens, et on l'a vu aujourd'hui, le Parlement.
Un rejet logique aussi pour Yannick Jadot, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts.
On peut quand même s'interroger sur le choix du président de la République, Emmanuel Macron, d'ignorer avec autant d'arrogance un enjeu majeur de nos institutions européennes, l'éthique. Les parlementaires européens veulent de la transparence. Ils ne supportent pas l'ingérence des États dans leur processus de désignation. Et le président Macron a été sanctionné par le Parlement européen.
Et la France va devoir choisir rapidement un nouveau candidat pour le poste de commissaire. Il est prévu que le Parlement européen vote l'investiture de la nouvelle commission le 24 octobre, c'est dans deux semaines. Les affaires européennes encore avec une lueur d'espoir, et c'est plutôt rare dans le dossier du Brexit. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et son homologue irlandais Leo Varadkar entrevoient, je cite, un chemin vers un possible accord. Déclaration cet après-midi à la sortie de Downing Downing Street à Londres. La date théorique de la sortie du Royaume-Uni et de l'UE est dans 3 semaines, précisément le 31 octobre. À la une, à l'étranger ce soir également, la nouvelle guerre en Syrie, lancée par la Turquie contre les Kurdes. Les frappes depuis 24 heures ont déjà contraint plus de 60 000 habitants à quitter leur foyer dans le nord-est de la Syrie, selon une ONG. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi à huis clos. Critique unanime des Européens, des Américains, de l'Iran, d'Israël. Même la Russie appelle à un dialogue. Le président turc, lui, reste droit dans ses bottes et menace même ceux qui voudraient barrer la route de son offensive. Son arme, les 3 600 000 réfugiés syriens sur son sol. Écoutez Recep Tayyip Erdogan.
La Turquie est peut-être le seul pays dont la présence en Syrie soit actuellement légitime. Non seulement parce que la sécurité de notre frontière est menacée, mais aussi parce que nous accueillons 3 600 000 Syriens qui attendent de rentrer chez eux. Ô Union européenne, reprenez vos esprits. Si vous essayez de qualifier d'invasion notre opération en cours, alors c'est simple pour nous, nous ouvrirons les portes et nous vous enverrons 3 600 000 réfugiés syriens.
Le président turc Erdogan, des propos recueillis par notre correspondante Anne Andlauer. L'Irak en deuil national aujourd'hui en mémoire des plus de 100 morts. Pour répondre à la crise, le chef du gouvernement propose des aides sociales et un remaniement ministériel. C'est bien une attaque terroriste qui s'est produite hier à Halle en Allemagne. Un terroriste antisémite, le suspect arrêté, un Allemand de 27 ans, voulait commettre un massacre dans la synagogue où des juifs célébraient Yom Kippour. Le procureur fédéral allemand a décrit l'assaillant comme marqué par un antisémitisme effrayant, une haine de l'étranger. L'homme s'est filmé pendant son expédition funeste et l'a diffusé en direct pendant 35 minutes sur une plateforme internet. D'après ce site, seules 5 personnes ont pu y avoir accès sur le moment, mais la vidéo a été très largement partagée ensuite et visionnée des dizaines de milliers de fois, comme lors de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars dernier. Alors a-t-on fait des progrès depuis ? Nous avons posé la question à l'expert en cybersécurité Nicolas Arpagian.
L'algorithme n'est pas forcément la meilleure solution. Pourquoi ? Parce qu'il lui faut apprendre sur des images de manière à pouvoir automatiser l'éventuel blocage. Or, il est très difficile de faire la différence, par exemple, entre une bagarre, entre un chahut et des actes extrêmement violents qui engagent la vie humaine. Donc, c'est la raison pour laquelle les plateformes sont davantage dans une logique de réaction. Réaction, ça veut dire, dès lors que l'on me signale ce contenu, je dois pouvoir avoir une procédure interne de manière à bloquer le compte et surtout faire en sorte que cette vidéo ne reste pas accessible pour éviter les duplications multiples. Les plateformes ont toujours un peu de mal parce qu'elles jouent entre leur réputation, l'image de marque. C'est effectivement pas plaisant de voir que leur nom est associé à des drames humains. La seule chose, c'est que ce filtrage éditorial ne correspond pas pour la plupart d'entre elles à leur modèle économique d'origine. Et elles souhaitent se protéger en invoquant le statut d'hébergeur qui fait que leur responsabilité est relative. Elles rechignent vraiment à y consacrer des moyens conséquents, techniques et humains parce que cela vient affecter leur profitabilité et leur modèle d'origine.
L'expert en cybersécurité Nicolas Arpagian, il répondait à Louise Baudet. En France, le procès du commando de Notre-Dame contre les 2 jeunes femmes djihadistes qui avaient prévu un attentat à la voiture piégée en plein cœur de Paris en 2016. 25 et 30 ans de prison viennent d'être requis. On y revient dans le journal de 19h. L'annonce brutale pour les 619 employés de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon. Le site fermera d'ici la fin de l'année prochaine en Vendée. Une décision incompréhensible pour les syndicats, tant l'entreprise de pneus est rentable, selon eux, mais la direction affirme souffrir de la concurrence des pneus asiatiques. Les élus locaux se sont rendus sur place cet après-midi, Raphaël Ebenstein.
La rencontre s'est faite près d'un petit chapiteau dressé par les syndicats devant l'usine où sont restés cet après-midi une cinquantaine de salariés à côté d'un feu de palettes et surtout de pneus entretenus plus ou moins régulièrement. Le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, a fait part de sa colère et de celle du sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, absent lui cet après-midi pour cause de rendez-vous à Paris avec le patron de Michelin, rendez-vous fixé à l'en croire après l'annonce de la fermeture de l'usine.
J'ai eu Bruno Retailleau ce matin, aussitôt après le coup de fil, il était furieux, il les a appelés en disant « Foutez foutez de ma gueule parce que vous nous mettez un rendez-vous alors que vous avez déjà pris la décision. Et donc là, nous, on n'était absolument pas contents. Moi, ce matin, le gars que j'ai eu ce matin, je l'ai envoyé promener vertement parce qu'on ne se comporte pas comme ça avec les gens. C'est pas acceptable. Voilà.
Colère aussi, évidemment, des salariés, amertume, également dégoût, nous confiaient certains. Les plus âgés sont pour la plupart repartis chez eux dès ce matin. Seuls sont restés les plus jeunes. Ils ne croient pas aux propositions de reclassement de la direction au sein d'un des 14 sites français du groupe à l'image de Morgane.
Non, je ne partirai pas, j'ai des enfants ici, donc c'est hors de question. On ne peut pas changer toute une vie comme ça, c'est pas possible. C'est pas parce que Michelin ferme qu'il n'y a pas d'autre chose, il y a d'autres travail ailleurs.
Et si Sud, premier syndicat de l'usine, envisage un appel à la grève illimitée, beaucoup envisagent de reprendre le travail, le cœur gros, dès lundi. À La Roche-sur-Yon, Jean-André Giannichini, Raphaël Ebenstein, France Inter.
La fin de l'ère Carlos Ghosn chez Renault signe également le départ annoncé demain en conseil d'administration de Thierry Bolloré, selon l'AFP. Le constructeur automobile s'apprête à remplacer le directeur général, dauphin de Carlos Ghosn, destitué depuis le scandale de malversation et son emprisonnement au Japon. Objectif atteint pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Emmanuel Macron voulait récolter 14 milliards de dollars pour le Fonds mondial. Après un dernier coup de pression ce matin à Lyon, il y est parvenu, 14 milliards de dollars. La France a augmenté un peu sa contribution. Mais cela sera-t-il suffisant pour éradiquer ces trois fléaux d'ici 2030 ? Écoutez Marc 19, le directeur général de Aide France.
Le président de la République a annoncé être monté à 20% d'augmentation. Nous, on était pour au moins 25%, voire plus. C'est très important pour le rang de la France, mais c'est d'abord très important pour tous les malades qui attendent des traitements encore aujourd'hui. 14 milliards, c'est ce qui nous permet juste de ne pas perdre tout ce qu'on a gagné depuis 10 ans. En fait, on a besoin de plus que 14 milliards de dollars. Donc on est content de voir qu'on y est presque, mais il faut rester extrêmement vigilant parce que ça ne permettra pas de battre l'épidémie.
Et éradiquer ces maladies à l'horizon 2030, c'est possible ?
Alors c'est possible, mais à des conditions qui ne sont pas atteintes aujourd'hui. Pour le VIH, c'est tout à fait possible si on augmente le dépistage, si on donne accès au traitement à toutes les personnes séropositives, vous les mettez toutes sous traitement et il n'y a plus de transmission. Pour le paludisme, vous augmentez le taux de distribution des moustiquaires imprégnés et vous donnez des traitements adaptés aux enfants notamment, alors vous n'avez plus d'enfants qui meurent du paludisme. Donc oui, c'est possible, mais avec des efforts considérables.
Le directeur général de Aide France au micro de Mathilde Imberti. On termine par un double prix Nobel aujourd'hui de littérature. Deux auteurs distingués. D'abord, la Polonaise Olga Tokarczuk pour le prix 2018, qui n'avait pas été remis l'an dernier. Tokarczuk, ses dreadlocks, son engagement politique à gauche pour l'écologie et son œuvre très variée entre contes philosophiques, romans policiers et récits historiques, notamment dans les livres de Jacobs traduits en français. Autre lauréat pour l'année 2019, cette fois, vous le connaissez peut-être davantage, c'est Peter Handke, l'écrivain autrichien, auteur notamment de L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty. Il s'est dit étonné de recevoir une telle récompense après toutes les querelles. Ilan Amor, Youssef, on vous retrouve devant chez lui. Il vit à Chaville, hein, près de Paris. Il faut dire que Peter Handke est loin d'être une figure consensuelle, Ilana.
Oui, mais en tout cas, c'est très aimablement qu'il reçoit devant l'allée boisée de sa maison. C'est une procession de journalistes, évidemment, mais aussi de voisins qui apportent, qui une bouteille de vin, qui une bouteille de saké. Peter Handke donc reçoit dans son jardin, tout de suite après l'annonce, il est allé marcher en forêt. Ce prix Nobel qu'il a tant critiqué, il est finalement heureux de l'obtenir et il ira bien le 10 décembre à Stockholm se confronter, comme il dit. Et quand on lui parle des polémiques que cette récompense pourrait susciter, en raison de ses prises de position pro-serbes pendant le conflit des Balkans, il répond.
Ils ont voté pour la littérature et moi je suis la littérature. Je suis la littérature pure. Même avec mes bêtises, je suis la littérature. Dans notre époque, on confond trop le journalisme et la littérature.
Mais à ceux qui contestent votre prix, vous répondez quoi ?
Qui dit ça ? Quand j'ai eu le prix Ibsen à Oslo, c'était la même chose là. Ils m'ont insulté comme fasciste quand je suis allé au Théâtre National de Oslo. Mais je me suis arrêté, je voulais leur parler, mais ils ne voulaient pas parler.
Tout pour la littérature, donc pour le nouveau prix Nobel de littérature qui dit avoir le patriotisme en horreur. Devant la maison de Peter Handke dans les Hauts-de-Seine, Raymond Albouy, Ilan Amor Youssef, France Inter.
Et notre grand prix à nous vient d'être mis en ligne jeudi 18h. C'est l'heure de la sortie de notre podcast hebdomadaire Poursuite. Et cette semaine, Bruno Duvic nous emmène dans les coulisses de l'expo Vinci au musée du Louvre. Quel temps pour demain ?
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Next avec Élodie Calac. Bonsoir Élodie.
Bonsoir à tous.
Alors demain ce sera ensoleillé avec un réveil quand même gris dans le nord.
Et oui, sur le nord-ouest, l'Orléanais, la région parisienne, les frontières du nord, beaucoup de grisailles le matin. Alors l'après-midi, ça va rester gris près de la Manche avec quelques gouttées du vent, mais ailleurs on retrouvera de belles éclaircies. Et puis plus au sud, le soleil sera là dès le matin. Juste quelques nuages bas ou quelques brouillards vite oubliés vers le centre, la Bourgogne, le Massif central ou la Côte d'Azur. Et en revanche, sur le Languedoc-Roussillon, là, ça s'ennuagera dans l'après-midi avec le vent de sud-est qui apportera des nuages.
Vous nous dites un mot des températures, Élodie.
Seulement 5 à 10 degrés sur le sud et sur l'est le matin, donc un petit peu de patience, hein, puisque l'après-midi, il fera très doux, 18 à 23 degrés au nord, 22 à 26 au sud et jusqu'à 29 pour le sud-ouest. Là, c'est chaud.
Merci, Élodie Calac de Météo France.